Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre type très percutante qui, moi, en tout cas, m'a sensibilisé à une réalité. C'est la réalité des personnes qui sont aveugles et qui utilisent les transports en commun ou des taxis, des services de covoiturage et qui sont confrontés à des obstacles absolument incroyables. Cette lettre, elle est écrite par Catherine Houde. Elle est juriste et elle est chef de la défense des droits chez INCA, INCA. Madame Houde, bonjour.
Bonjour.
Avant de se parler pour l'entrevue, on a réglé une chose. Vous me dites que c'est correct que j'utilise le mot aveugle puisque vous l'utilisez vous-même dans votre lettre. Écoutez, cette lettre-là, moi, m'a beaucoup sensibilisée à la réalité des personnes aveugles qui doivent utiliser des transports puisqu'on peut pas conduire une voiture. Ça me paraît une évidence. C'est quoi le plus gros obstacle quand on est aveugle et qu'on veut utiliser des transports autres qu'un transport privé?
Ben, je vous dirais que le plus gros obstacle dans les faits, c'est justement la méconnaissance de ces obstacles-là. Dans le sens où nous, on confronte des défis à tous les jours, hein, dans toutes les sphères de notre vie, c'est un fait, mais les gens ne réalisent pas ce que sont ces obstacles et ces défis-là. Donc, c'est très difficile par la suite, par exemple, quand on se déplace, que les gens comprennent ce qu'on vit, tout simplement.
Ouais. Bon, il y a différentes barrières. Moi, ce qui me frappe le plus, bon, quand on parle d'une entreprise privée, par exemple, une compagnie de taxi ou Uber, c'est une chose. Mais quand on parle de transport public, des stations de métro, des autobus, comment se fait-il qu'on soit pas plus sensibilisé en 2022? Comment ça se fait que ce soit à ce point-là un casse-tête? C'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'il y avait des personnes aveugles au Québec. Je veux dire, c'est très fâchant de se rendre compte qu'il y a autant d'obstacles?
C'est un fait, mais vous savez, c'est un peu un cercle vicieux, hein, parce que le fait qu'il y ait autant d'obstacles fait en sorte que forcément les personnes aveugles sortent moins, donc qu'on les entend moins, qu'on entend moins les difficultés, et bien, étant donné que ces obstacles-là ne sont pas réglés, bien évidemment, ça fait en sorte que justement, on nous entend moins. Donc, c'est malheureusement un peu un cercle vicieux.
Ouais, non, je comprends. Mais en fait, c'est un cercle vicieux qui crée de l'isolement parce qu'à partir du moment où justement il y a moins de personnes aveugles qui circulent, nous, excusez-moi de l'expression, mais on les voit moins, donc on est nous-mêmes moins sensibilisés à cette réalité-là. Ce que j'aime de votre lettre, Madame Houde, c'est que vous nous parlez de solutions qui existent. Entre autres, mieux former le personnel, inclure des informations en braille, ajouter une assistance à la navigation. Les solutions que vous proposez me semblent assez simples. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas implantées?
Bien, pour certaines grandes sociétés, je pense que c'est des choses qui s'en viennent. C'est un tournant qu'on va prendre dans les prochaines années. Mais c'est une bonne question. Je pense que historiquement, il y a vraiment un changement de culture à opérer dans la société quant à la vision qu'on a des personnes qui ont des limitations. Je pense que pendant longtemps, on a considéré que ces personnes-là n'étaient pas en mesure vraiment d'être incluses dans la société. Puis je pense que tranquillement, on réalise que c'est tout à fait possible. Et en fait, c'est un peu là comme l'image, c'est la société qui fait qu'on n'est pas inclus. C'est pas réellement nous et notre limitation. Donc, c'est comme une personne en fauteuil roulant qui fait face à un escalier. Je veux dire, si c'était un ascenseur, il n'y a aucun souci.
Oui, mais justement, la question se pose. Moi, je ne comprends pas comment se fait-il que quand on a créé ces stations de métro-là, Comment ça se fait qu'on a pas mis des ascenseurs partout? Comment ça se fait qu'on met, qu'il y a encore des marches devant autant de commerces? Comment ça se fait qu'il y ait autant de limitations? Parce que, en plus, vous nous parlez dans votre lettre, vous donnez l'exemple. Par exemple, Vancouver, la compagnie TransLink, qui a équipé ses arrêts d'autobus d'un horaire et d'informations tactiles. Ben, pourquoi à Montréal ou, pourquoi on n'a pas ça ici?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est justement un enjeu d'éducation et de sensibilisation. Si les gens réalisent pas qu'on en a besoin, ben c'est pas là. C'est sûr que sans être des coûts extrêmes, il y a une question de coûts aussi. Parce que quand on crée des lieux accessibles à la base, ça coûte beaucoup moins cher que quand on les modifie pour les rendre accessibles.
Bien sûr.
C'est toujours un enjeu. Donc, je pense que c'est toutes des questions de ça. Mais nous, on a très hâte que ça le soit. Hein, parce que comme je disais dans ma lettre, ben il n'y a pas de signalisation accessible pour nous. Donc, on va, par exemple, dans une station de métro de mémoire. On apprend le réseau de mémoire où on se fait une représentation mentale. Puis là, ce qui arrive particulièrement après la pandémie, c'est qu'après 2 ans pour prendre le métro, les gens, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Hein, donc,
Ah oui! J'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison.
Donc voilà, c'est vraiment un enjeu auquel on fait face. Puis c'est pour ça qu'on interpelle davantage les élus et les sociétés de transport à ce moment-ci, parce qu'il y a vraiment une difficulté supplémentaire. Donc, quand on parle d'assistance à la navigation, c'est vraiment important. C'est pour, essentiellement, c'est de la signalisation accessible, donc pour dire aux gens où sont les portes, où sont les différentes directions, parce que sinon, ben on cherche dans la station, je veux dire, on finit par se trouver, puis les gens sont très gentils, mais c'est quand même difficile.
Oui. Vous soulignez dans votre lettre, encore une fois, très percutante. Bon, il y a 200 000 personnes qui ont une limitation visuelle en ce moment au Québec, avec le vieillissement de la population. Bien sûr, ce chiffre-là va augmenter. Qu'est-ce que vous espérez obtenir en écrivant cette lettre ouverte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec?
En fait, on espère surtout, moi personnellement, puisque je suis une personne aveugle, mais chez INCA, un peu réveiller les élus au sujet que les personnes aveugles ont vraiment besoin qu'on se penche bon, sur leur cas d'une certaine façon, et surtout dans le cas des transports, parce que c'est vraiment un enjeu. Je veux dire, une personne aveugle, si elle peut pas se déplacer de manière autonome, ben comment est-ce qu'elle peut trouver un emploi, par exemple,
bien
et
sûr.
Devenir un contribuable? Et éventuellement, dans ce cas-ci, si on devient un contribuable, ben coûter beaucoup moins cher à la société, donc...
En effet, il y a une logique qui est assez implacable. J'encourage tout le monde à aller lire votre lettre, Madame Hood, pour justement nous sensibiliser à cette réalité, puis surtout sensibiliser les décideurs, hein, c'est vraiment ça qu'on veut. Ça s'intitule Terminus Accessibilité, une lettre très bien défendue. On voit que, comme juriste, hein, vous savez comment bâtir un argument, Madame Hood. Vous êtes juriste et chef de la défense des droits chez INCA. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui pour nous sensibiliser à cette réalité-là.
Ben, ça fait très plaisir. Merci à vous.
Merci. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la mise en onde, à la réalisation. À la recherche, il y avait, ben, comme d'habitude, hein, vous les connaissez maintenant, Charlotte Duquette, j'allais dire, vous les connaissez maintenant, puis là, je me serais trompée dans leur nom, ça aurait été assez rigolo. Donc, Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Jean-Nicolas Gagné, tout ce monde-là qui donne un coup de main et met l'épaule à la roue à la recherche. Merci à vous d'être fidèles au poste. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière de la saison, mais vous en faites pas, il y a plein d'excellents animateurs qui vont être avec vous pendant tout l'été à Cube Radio.